bienvenue à tous. Vous êtes à présent sur la route 66, l'émission du blues et des music roots américaines sur Radio RDL, Colmar avec Jean-Luc et David.
Bienvenue à tous et c'est reparti pour une nouvelle saison. Le premier d'entre eux est vraiment un tout jeune, il a 19 ans, c'est un nouveau venu dans cette grande famille, mais quelqu'un qui en l'espace de quelques années s'est déjà forgé un nom dont vous entendrez beaucoup parler dans le futur, j'en suis sûr, c'est monsieur Charlie Faber. Merci à toi d'avoir répondu favorablement à mon invitation, Charlie. Et le deuxième d'entre eux est presque aussi jeune, hein, mais par contre il a juste une petite quarantaine d'années de carrière en plus. C'est une légende, hein, c'est quelqu'un que je respecte depuis très très longtemps. J'ai eu la chance de le voir souvent sur scène. C'est monsieur Mauro Ceri, que vous avez forcément toutes et tous entendu à travers des enregistrements, ceux de vos artistes préférés, ou alors sur scène aux côtés des meilleurs, qu'ils soient bluesman américain ou grande star française. Il est l'accompagnateur depuis une trentaine d'années de Bill Durham maintenant. Voilà.
Bonjour tout le monde, chers auditeurs.
Voilà, alors donc évidemment, qui dit musicien et plus spécifiquement musicien de blues dit forcément guitare. Alors je vous cache pas qu'il y en a deux, trois dans le studio qui nous tiennent compagnie. Et évidemment, Charlie et Mauro vont se faire un plaisir de nous interpréter quelques titres en live durant cette heure de route 66. Mais auparavant, pour commencer le show, j'aimerais un petit peu m'adresser à Charlie et commencer l'émission par lui. Alors dans un premier temps, Charlie, c'est vrai que les gens ne te connaissent pas encore très très bien. Est-ce que tu pourrais simplement te présenter de façon succincte?
Alors en fait, donc, je m'appelle Charlie Faber. Je suis donc guitariste depuis 5 ans et demi maintenant. Je n'ai pas forcément commencé par le blues, mais j'ai eu énormément d'opportunités pour jouer avec des artistes dans différents styles de musique, que ce soit autant de la pop, de la world music et maintenant le blues depuis... Depuis que j'ai vu Fred Chapelier, qui est vraiment mon dieu du blues à moi. Et donc aujourd'hui, cette tournée avec Mauro, qui est vraiment un honneur et un plaisir pour moi.
Alors justement, quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à vouloir te procurer une guitare? Et est-ce que c'était déjà en amont de ton amour pour le blues, ou alors c'est venu après?
En fait, un jour, j'étais avec mon père chez un ami. Il m'a fait écouter le morceau Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et ce jour-là, j'ai eu une sorte de déclic qui a fait que je me suis dit, je dois être guitariste, il faut que je sois guitariste. Et j'ai lourdement insisté auprès de mes parents pendant 6 mois pour qu'ils m'achètent une guitare. Et au début, c'était un peu difficile, mais quand ils ont vu que c'était pas une lubie d'adolescent, ils m'ont énormément aidé, ils m'aident encore énormément maintenant.
Et en dehors de Led Zeppelin, quels sont les musiciens qui t'inspirent?
Alors actuellement, au début c'était vraiment Led Zeppelin, Deep Purple, par la suite Hendrix, qui m'a un peu plus rapproché du blues. À l'heure actuelle, mes plus grandes influences sont Fred Chapelier, dont je parlais tout à l'heure, justement Bill Durham, avec Mauro à ses côtés. Donc pour ce qui est du blues français, sinon je suis un grand fan, comme énormément de fans de blues, de Stevie Ray Vaughan, Muddy Waters... Roy Buchanan et autres.
Alors, hier, j'ai eu pour la première fois l'opportunité d'assister à l'une de tes prestations scéniques. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Quand on sait que tu as commencé la guitare en 2002, on imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière. Alors justement, est-ce que tu pourrais un peu me parler de la méthode que tu as suivie, ou alors de l'acharnement, entre guillemets? Tu bosses combien d'heures par jour?
Alors, à la base, c'était plus un amusement. À une époque, je dormais presque pas des... À l'époque, j'étais encore à l'école. Je dormais presque pas des nuits, en fait, pour jouer et jouer et jouer et jouer. Je pourrais pas dire exactement combien d'heures par jour j'ai fait, mais moins maintenant, parce que j'ai mon groupe à gérer, ce qui fait que ça prend énormément de temps, mais je travaille quand même dès que j'en ai le temps. Mais à une époque, c'était 5 ou 6 heures par jour, sans aucune... notion de travail, c'était vraiment, vraiment pur amusement.
Et c'était du blues dès le départ, ou tu diversifiais un petit peu les registres?
Justement, à la base, c'était ce que je disais tout à l'heure, vraiment Jimi Hendrix, même à la base, vraiment Led Zeppelin, Deep Purple, qui était vraiment pour moi la musique. Et puis par la suite, donc j'ai vu Fred et je me suis mis à travailler énormément de Stevie Ray, justement de Roy Buchanan, d'artistes comme ça.
Et à quel âge est-ce que tu as commencé à te produire dans les clubs, faire un peu la tournée des bars, à bon escient évidemment, avec la guitare à la main?
Alors c'est une bonne question. J'avais 16 ans, j'ai commencé à tourner dans les bars.
D'accord. Et justement, tu parlais de ton appréciation et de ton amour, plus exactement pour le blues et les bluesmen français. Alors, est-ce que tu te sens comme un héritier de cette scène blues qui regroupe tous tes aînés, hein, des gens comme Mauro, Patrick Verbeek, Benoît Blueboy, etc. Est-ce que tu te sens une fibre familiale avec ces gens-là?
J'ai l'impression que, malgré le fait que le blues soit une musique inoubliable et interminable, parce que le blues existait il y a 100 ans, même plus, et ça existera toujours dans 100 ans, j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que je me sens le besoin de faire vivre cette musique par mes moyens, même s'ils ne sont pas forcément énormes. Et surtout le blues en français, qui est quelque chose dans le milieu blues qui n'est pas forcément apprécié, mais que je revendique énormément.
Alors justement, de qui te sens-tu le plus proche, par exemple au niveau de l'inspiration pour les textes, lorsque tu chantes en français?
Sans aucun doute de Fred et de Bill Durham. Mm-hmm. Donc, après, le problème, c'est que je ne connais pas non plus énormément de bluesmen qui font du blues en français et qui me touchent vraiment. Mm-hmm. Après, j'en découvre, il m'arrive d'en découvrir grâce à Internet maintenant. Mais à la base, c'est vraiment par rapport à Fred que je chante en français et par rapport à Bill Durham que j'essaie de pousser un maximum mes textes. Dans certaines directions, pas forcément blues.
Mmh. En tout cas, on a droit à une petite primeur aujourd'hui dans l'émission, parce que je crois que c'est ta première émission radio en compagnie de Mauro Seri. Et non seulement c'était hier soir votre premier concert commun, mais en plus c'était votre première rencontre. Et là, c'est vrai que je suis tombé sur les fesses lorsque je l'ai appris, parce que je pensais qu'en fait vous connaissiez déjà un petit peu. Alors, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur vos premiers contacts?
Alors, Mauro à la base, et je pense pas qu'il s'en rappelle maintenant, je lui avais envoyé un email quand j'étais gamin, quand je commençais la guitare, et il s'en rappelle pas, et ça c'est super marrant.
Et, que va-t-il dire derrière?
Je lui avais demandé à l'époque quelques conseils pour la guitare, et il m'avait répondu par mail avec une grande gentillesse, et il avait vraiment répondu à pas mal de mes questions. Et d'ailleurs, Mauro, je t'avais même demandé une photo dédicacée, ainsi qu'un médiator que tu m'avais envoyé, que j'ai encore aujourd'hui.
Oh la vache!
Et puis, on en reprend. Et puis bon, le contact s'est un peu perdu parce que bon, il n'y avait aucun lien intime, c'était vraiment plus un lien de fan à idole. Et grâce à MySpace, donc j'ai retrouvé le contact avec Mauro. Et j'ai proposé de faire cette tournée donc dans notre région ou dans le coin de chez nous pour sortir un peu de Paris. Et il a accepté sans hésitation. Qui me touche énormément.
Et ça fait allez, une trentaine d'heures que vous connaissez physiquement. Quel a été ton premier ressenti au contact du bonhomme? Et est-ce que hier soir, lors de ton premier concert avec lui, tu as déjà appris des choses?
Oui, c'est sûr que oui. Déjà, c'était immense de me penser être sur scène avec lui. J'ai appris énormément par rapport au fait qu'on est. Par exemple, au fait qu'on n'ait pas eu de répétition pour faire ce concert, on s'était mis d'accord sur quelques morceaux. On a lancé le concert, c'était vraiment intéressant de jouer à côté de lui en apprenant à le connaître musicalement en même temps. Parce qu'il y a des signes qu'on apprend à connaître avec le temps quand on a l'habitude de jouer avec certains musiciens. Et là, tout s'est fait vraiment dans une grande rapidité. Donc j'ai déjà appris beaucoup et je suis sûr que sur le reste de la tournée, je vais en apprendre encore énormément.
Et c'est une relation que tu aimerais poursuivre avec Mauro après cette première approche? Tu sens qu'il y a peut-être des atomes crochus qui se sont déjà un petit peu mis en place et...
Pour le moment, on se supporte encore.
Ça va, au bout de 24 heures, c'est bon?
Pour l'instant, ça va. Faudra voir ça dans une quinzaine de jours, je pense.
Alors, en ce qui concerne ta musique, à proprement parler, ton propre groupe, tu as fondé un... Vous êtes à 4, je crois, un petit...
À la base 4, oui.
Ouais, quartet de blues. Voilà. Alors, est-ce que tu pouvais un peu me parler de ces musiciens et de la façon dont vous êtes rencontrés?
Alors, à la base, je suis rentré dans un projet de World, où donc la scène, qui est actuellement le bassiste qui joue avec moi, était le leader. Le projet de World, justement, c'est ce groupe de World s'est à splitter. On s'est arrêté. J'ai proposé à la scène de rentrer dans mon blues band comme bassiste, chose qu'il a accepté tout de suite. Et je suis vraiment, vraiment content de.
La scène, c'est un prénom, hein. C'est pas la scène comme celle où on monte dessus, tu vois.
Et ouais, c'est ça, 24 heures sur 24, hein, je tiens à préciser. Et donc voilà, c'est parti à la base avec la scène. Pierre Alain, c'était une connaissance de la scène, donc à la batterie, Pierre Alain. Une connaissance de la scène, et on a fait un essai, pareil, j'ai accroché tout de suite. Et Loïc, c'était avec un des musiciens avec qui j'ai joué quelques années avant, qui m'avait donné son numéro. À l'origine, j'avais vraiment besoin d'un organiste pour une date. Et même chose, il y avait vraiment eu une accroche qui a fait qu'on joue maintenant ensemble sur tous les concerts. Voilà.
Okay. Et le fait de te retrouver si jeune, leader d'un blues band, qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que ça, y a pas trop d'animosité par rapport aux autres musiciens que tu peux côtoyer comment tu travailles au jour le jour avec tes compagnons de route t'es plutôt quelqu'un de dirigiste ou comment ça se passe?
Assez. Des fois, ils ont du mal à me supporter, d'ailleurs. Mais non, en fait, c'est ce que je dis souvent. J'essaie de me mettre à leur place. Et il est évident que ça doit vraiment pas être facile d'offrir sa confiance, parce que quand on rentre dans un projet où il faut suivre un leader, il faut absolument lui donner toute sa confiance. Et ça doit vraiment pas être facile de donner sa confiance à quelqu'un qui a 10 ans ou 20 ans de moins. Ils font vraiment naturellement. Donc moi je peux vraiment avancer rapidement dans mes projets grâce à cette confiance qu'ils me donnent. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment fier que ce projet avance avec eux.
Alors justement, en termes de projet, je crois qu'il y a eu l'enregistrement d'un DVD live. Est-ce que vous avez déjà des maquettes, des CD à votre actif?
Alors actuellement, sur les DVD, on peut voir un extrait sur mon MySpace. Donc, et même sur le MySpace de Moreau, il y a un extrait de mon DVD dans une rubrique qui s'appelle « Les potes de Moreau ». Ce DVD, en fait, sortira pas à la fin de l'année. Mais je réserve une petite surprise avec... Voilà.
D'accord, donc on n'en saura pas plus.
Pas pour l'instant.
Sinon, pour en revenir un petit peu à Moreau, je vois que vous avez tous les deux de superbes instruments entre les mains. On peut citer les marques, hein, donc une Telecaster pour toi, une Fender. C'est un instrument particulier, c'est un modèle vraiment que tu avais choisi à la base.
C'est en fait, je suis allé un jour dans un magasin de musique pour chercher une deuxième guitare, parce que pour certaines scènes, il était difficile d'avoir qu'une guitare si une corde saute, s'il y a un problème technique ou autre. Et à l'origine, je voulais acheter une guitare vraiment simple, sans. Et je suis tombé sur cette guitare, je suis entre guillemets tombé amoureux, et depuis, je joue plus qu'avec celle-là. Mmh. Voilà.
Et tu as des idoles en termes de guitaristes qui jouent à la Telecaster? Il y a moult musiciens, hein, qui jouent avec cet instrument. Hein.
J'en reviens encore au même nom, Fred Chapelier.
Ah, d'accord.
Qui joue sur les deux. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'accroche en particulier chez lui, c'est vraiment le son qu'il a. Avec n'importe quel instrument, il a vraiment un toucher, un son que je trouve vraiment extraordinaire. Mm-hmm. Après, bon, évidemment, Telecaster, il y a les Roy Buchanan, Albert Collins, il y en a énormément.
C'est certain. Ben, si vous nous faisiez un peu vibrer ces instruments, chers amis, je vois que vous vous impatientez et que vous avez déjà choisi un morceau. Alors, je me languis de l'entendre et de le faire découvrir à mes auditeurs. Et il me semble que c'est un grand classique que bon nombre d'entre eux devraient reconnaître.
Et oui, un morceau de James Marshall Hendrix. She's walking through the clouds with a circus smile.
that's running wild. Butterflies and zebras, moonbeams, fairy tales. Well, that's all she ever thinks about, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, it's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Anything. Fly on, little wing.
Ah, je vous dis pas la place de concert que j'avais là, c'était magistral, hein, la tête collée contre le manche de guitare de Mauro.
D'ailleurs, tu me gênais un peu.
Ouais, fallait y aller, un bon coup. Hein,
ah non, j'aurais fait des fausses notes, on est déjà bien assez fait comme ça. Hein.
Merci beaucoup, et puis merci pour cet hommage aussi à Jimi Hendrix, hein. C'est vrai, c'est quand même, rendons à César ce qui lui appartient, et merci pour ce petit concert privé. Alors pour ceux qui aimeraient quand même vous voir en live, ils ont encore une chance, en tout cas ceux qui nous écoutent en direct lors de l'émission du mercredi, c'est ce soir le 3 septembre à partir de 21h au CAFCONS d'Ensisheim. Venez nombreux, alors je sais c'est pas évident, c'est la rentrée, mais faut pas perdre le rythme des vacances, faut continuer à se coucher tard, hein. N'hésitez pas, et puis en plus vous allez prendre une claque magistrale, vous pouvez faire confiance à nos deux invités, et puis en plus là, pour le prix d'un seul concert, vous allez voir la révélation du blues en France, un futur Fred Chapelier, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et surtout un monstre sacré de la six cordes, Mauro Ceri, qui a joué avec tous les plus grands, mais ça, nous allons y revenir tout de suite.
Ça, tu l'as déjà dit.
Je l'ai déjà dit, et je vais encore y revenir plus tard, tu peux compter sur moi, juste après un morceau studio de Charlie Faber, avec son groupe, c'est le premier titre de ta démo, c'est lequel ?
Who You're Working For.
On se le passe tout de suite. Vous êtes sur le 103.5 FM Radio RDL à l'écoute de Route 66 évidemment, et je vous rappelle l'adresse du site internet de l'émission sur la route66.free.fr où les entrevues qui se déroulent actuellement derrière vos postes seront bientôt retranscrites sous la forme écrite avec des photos à la clé, et viendront s'ajouter aux déjà plus de 330 interviews de transcrites sur le site. Il y aura également un petit reportage sur la venue de nos deux invités, et puis l'émission télécharge ainsi que les fameuses vidéos qui font le tour du monde, comme il se doit évidemment. Allez, comme promis, on retrouve dans un second temps, Mauro Ceri. Alors c'est vrai que je suis un petit peu tout ému, j'en bafouille, et c'est quelqu'un que je voulais vraiment rencontrer depuis de nombreuses années, comme j'ai pu te le dire, Mauro. Et par contre, pour pondre une interview, j'ai eu énormément de mal, tu as fait tellement de choses que je ne savais pas par quoi commencer. Alors je me suis dit, bah, finalement, bah, on va peut-être commencer par le début.
Je sais pas, prendre un raccourci.
Prendre un raccourci, on prend...
Ouais,
peut-être on va prendre la route 66.
GPS.
Commençons sobrement par le début.
Ce qui est marrant, c'est que...
Il est lancé, ça y est.
Comment dire on a commencé tous les deux en étant attirés par un morceau en mineur avec des arpèges. Sauf qu'il y a une légère différence de décennie. Moi, c'était au début des années 60, c'était les arpèges de The House of the Rising Sun par les Animals. Tu vois. Alors lui, c'est Stairway to Heaven, c'est la mineure arpège. C'est quand même terrible. Et juste vite fait comme ça, je pourrais dire que j'ai jamais joué autant que lui dans les débuts. C'est peut-être la raison pour laquelle il est très bon au bout de 4-5 ans de guitare, mais je crois aussi qu'il est très doué. Donc voilà, ça étant dit, c'est pour ça que, en fait, le premier truc, en ayant oublié d'ailleurs que c'était le même gars à qui j'avais répondu l'autre fois, par email, qui m'avait contacté quand il était tout jeuneau, j'ai oublié que c'était lui, mais après, quand je suis allé sur sa page, j'ai écouté ces trucs, j'ai dit, ouais, mais il est très doué ce garçon pour son âge et tout. Plus j'y suis allé, plus je me suis dit, tiens, il est vraiment bon. Et j'aime bien rencontrer des gens très, très bons, très jeunes. Mm-hmm. Parce que malgré tout, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Mm-hmm. Donc ça fait un super plaisir.
Et c'est ce qui fait plaisir à tout le monde et qui est très surprenant parce que c'est vrai, et ça aussi, je t'en parlais hier après le concert, mais voir quelqu'un qui a ton vécu, ton passé, encore s'intéresser à des si jeunes musiciens et non seulement tu ne te contentes pas d'envoyer un petit mail de félicitations, dire bravo, j'aime beaucoup ta musique, mais tu y vas, quoi. Tu vas au contact et tu dis, on va faire quelque chose ensemble.
Ben oui, mais en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est la guitare bien jouée. Donc, en même temps, je fais une œuvre, une bonne œuvre en y participant. Donc, quand je rencontre un jeune qui est très doué, s'il y a moyen, ne serait-ce que de l'aiguiller un tout petit peu, je suis content. Hein? Ça n'a pas besoin, je ne vais pas être son coach, je ne vais pas être son, je ne sais pas quoi, son producteur. Tu vois, il est assez grand, tu as vu, il est dirigiste. Il faut être dirigiste. Qu'on se le dise. Les sidemen, dont je suis d'ailleurs, savent complètement oublier leur ego quand il s'agit d'obéir pour le bien-être d'une cause. Hein. Alors quand ces mecs jouent avec lui, ils n'ont qu'à l'écouter. S'il dit on va faire ça, il faut qu'ils obéissent, sauf s'ils avaient vraiment une idée géniale. Là, j'admets. Mais sinon, de base, moi, il y a des dirigeants et des dirigés. Point. Hein ? Qu'est-ce que t'en dis ?
Va falloir rebondir. On va peut-être passer de la musique, là. Vous avez préparé un morceau ?
Non, mais à part ça, j'adore le blues, j'adore la musique. Et donc, bon, si tu veux savoir un peu mon historique très vite, que tu sais déjà, bon, bah... Tu fais comme tout le monde, quoi. T'es un peu doué, les gens te remarquent, t'as des potes, tu fais des groupes. Après, tu te produis avec les groupes, t'as un mec qui dit « Ah putain, c'est bien ça, tu pourrais venir pour une séance d'enregistrement ». C'est comme ça que ça commence, quoi. Et un jour, j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé en enregistrement. Après, j'ai joué live avec d'autres qui m'ont aussi demandé en enregistrement. Et de fil en aiguille, j'ai connu... la bande à Verbeek, mais bien avant que Verbeek ne soit leader, c'était un sideman aussi dans un groupe.
C'était l'époque de Magnum.
Voilà, tout c'est à fait. Ça. Oh, tu connais ça. L'époque de Magnum, donc avec Jackie Chalard, Jean-Pierre Prévotat, tout ça. Mmh. Et là, il y avait Jean-Yves D'Angelo, et donc il y a eu le Seri et le Verbeek au guitare, quoi. Puis on a fait un album pour une chanteuse, Linda Keel, en 77. Alors avant, j'avais joué un album qui n'est jamais sorti avec Mark Robson et Le Point, un groupe 100% rock'n'roll. Alors, j'ai co-signé des chansons. Alors elles existent à l'état de bande, hein. D'ailleurs, elles me procurent toujours des droits, c'est marrant, mais bon, peu évidemment. mais c'est jamais sorti. Donc de fil en aiguille, ces trucs-là m'ont amené à connaître un journaliste qui a disparu à l'époque, du paysage journalistique, mais il est encore en vie. Hein. C'est Monsieur Daniel Perrault qui avait un magazine appelé Rock'n'Roll. Musique, ouais, c'est un petit magazine, mais très luxueux. Et donc, ce gars-là m'a branché sur le chanteur Christophe, sur, bizarrement, Mike Léguier, qui était à l'époque, en fait, un journaliste avec une production, parce qu'il écrivait des chansons. Voilà. D'ailleurs, Mike Lécuyer m'a encouragé à m'inscrire à la SACEM. Il y a plein de choses qui se sont faites un petit peu en même temps. Genre le creuset de mi-70, tu vois, 75 à 80, a fait très mal. Quoi. Donc, de fil en aiguille, j'ai connu Joël Daïdé. J'ai fait deux albums avec donc, Mike Lécuyer. J'ai fait un album avec Christian Descamps, qui était le producteur de Mike Lécuyer. Qui d'ailleurs vient de ressortir une compile.
Oui, ça sort
en compile. La plupart des choses qu'on a faites ensemble et avec d'autres, quoi. Les deux albums, c'est 45, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, de fil en aiguille, je rencontre Jean-Jacques Milteau, que je connaissais déjà un petit peu, par l'acquaintance d'un pote bassiste qui jouait aussi de l'arbo, Rolly Luco. Donc, il doit toujours être un petit peu dans le circuit, mais il s'est quelque peu mis en marge, quoi. Un mec, je dirais, génial. Pour moi, c'est mon alter ego musicien à la basse, tu vois. Il y a eu un gros échange avec lui. Donc, là, on devient, en fait, une espèce de cellule de groupe jouant avec Milteau. Et, de fil en aiguille, Milteau, il sort son Joker. Et c'est la bande du premier album de Bill Durham. Sur laquelle jouent un petit peu des musiciens français, mais surtout les musiciens américains qui accompagnaient Eddie Mitchell à l'époque. Je te parle de ça en 78. Et donc là, on tombe carrément sur le cul, le dentier m'en tombe, j'en ai pas. Et carrément d'entendre un mec chanter en français avec une putain de voix comme ça. Là, je suis tout de suite tombé amoureux de Rennes et donc... De fil en aiguille, le gars Milteau, il fait « Bah, maintenant, on va être le groupe au site de Rennes, vous allez voir, et crac, et on va faire des trucs. » Et hop, on a commencé à tourner, on est passé dans des endroits où venaient beaucoup de gens du spectacle. Et donc, de fil en aiguille, nous sommes devenus aussi la rythmique la plus demandée du moment. Et M. Eddie Mitchell est venu nous écouter et en live et en studio quand on n'enregistrait plus La Peine de Frimer. Et on me l'a posé plusieurs fois, puis La Peine de Frimer en entier, les guitares que je fais dessus sont faites avec la présence d'Eddie Mitchell dans le studio, et c'est one shot. Hein. Tout ce qui, il n'y a pas un re-re, rien. C'est de l'intro à tout ça, toute la guitare qu'il y a, elle est faite comme ça, live. Évidemment, c'est pensé, hein, il y a des grandes lignes écrites. Mais c'est spontané, quoi, et la mise en forme du moment, voilà. Et bon, après, une dizaine d'années d'Eddie Mitchell, en parallèle Ville de Rennes, en parallèle Milteau. À un moment, d'ailleurs, nous avons eu un groupe en co-vedette, hein, Milteau Série. Et nous avons fait un album ensemble, qui n'existe qu'en vinyle, hélas, mais je crois qu'il y a une compile qui a regroupé plus ou moins... la majorité de ces titres que nous avons fait ensemble. Et sinon, avec le gars de Rennes, et à part mes arrangements et mes idées, tout ça, de parties de guitare ou de rajout d'harmonie, puisqu'on me surnomme le maître de l'harmonie chez de Rennes.
Le maître du temple de l'harmonie, si je peux me permettre.
Et donc, le seul truc qu'on ait jamais écrit ensemble, sur une idée de moi, donc même des paroles, c'est La Collectionneuse, quoi, qui est sur mon live.
Voilà. Ouais, qu'on se passera d'ailleurs tout à l'heure. Hein.
Et donc, bon, ça continue. Je suis toujours avec Bill Durham. Je fais des groupes de mon propre cru. Alors, évidemment, je me mets au service de qui veut bien dès l'instant où ça me plaît.
D'accord.
Attention, donc, mercenaire de luxe, j'appelle ça. Ou alors, j'ai des coups de cœur. Hein. Conféré Monsieur Charlie.
Et même au moment de toutes ces grandes scènes, tu as continué à fréquenter finalement les clubs hein, qui sont au ton berceau. Et ça a été également l'occasion de faire des rencontres musicales avec énormément d'artistes, y compris des grands bluesmen américains. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit peu... c'est plus qu'une légende, c'est la réalité, mais notamment une rencontre avec le grand Champion Jack Dupré.
Tout à fait.
Pour un concert devenu mythique à l'Utopia.
J'aimerais bien avoir la bande, d'ailleurs, 5 heures
de musique.
Il y a une
bande qui existe.
Ah, et c'est le le Barbiquet d'Utopia.
Ah, il a la bande.
Monsieur Jacques.
Ah, mais il la lâchera jamais.
Mais si, c'est pas ça. Il dit, il faut que je fouille un peu dans mes archives. Mais ça fait jamais que 15 ans qu'il me le dit, ça. Mais bon. Et donc, 5 heures
concert, ont été enregistrées.
Moi, en électro-acoustique et lui, piano.
Ouais. Alors, et c'était quoi? C'était au débeauté? C'était un jam total?
Complètement au débeauté, ouais. Pas de ton, rien. C'est mes grandes oreilles et ma compréhension analytique de la musique, quoi. Donc, si tu veux, quand tu commences à pratiquer un peu la zik, tu te dis, ça va aller vers cet accord-là ou celui-là, ça peut pas aller ailleurs, quoi, tu comprends? Donc, globalement, on s'y retrouve assez vite. D'où le fait que, quand on a joué hier, le néophyte, il y voit que du feu, quoi. Mais il y avait beaucoup de pain, hein. C'était une vraie boulangerie. Hein.
Sponsorisé par Bennett.
Et y compris de moi, hein. Attention, hein. Je jette pas la faute sur les autres, hein. Non, je veux dire. Et globalement, c'était très cohérent.
Et qu'est-ce que vous avez joué pendant 5 heures?
Eh bien, écoute, des morceaux à lui, dont, tu vois, je saurais te dire aucun titre, mais je pense que ce garçon-là aussi improvisait beaucoup des histoires, comme peuvent faire les bluesmen. Il paraît que c'est le spécialiste du genre, c'était John Lee Hooker. Il fallait jamais répéter, arriver en studio comme ça, faire des trucs, parce que de toute façon, dès qu'il prenait le truc, il mettait tout de suite en forme un truc différent de ce qui aurait pu être prévu. Donc, il créait sans cesse. Alors, vas-y voir pour l'accompagner. J'ai réussi. Alors, ce qui m'est la grosse anecdote, c'est quand même qu'il m'a fait un super compliment. Lui, il arrêtait pas de brasser sur le vin. Il disait « Putain, je veux mon vin !» Il disait « Putain hein. !» Mais en anglais, alors. Et « Hey, what the matter? Where is my wine? No wine, no music. » Et moi, il me disait « I just can't believe how a young man like you can play the blues drinking orange juice. How do you do that?
Comme quoi ça marche aussi avec le jus d'orange.
Ça énerve aussi, hein.
Outre cette légende du blues, quels sont les autres musiciens américains que tu as pu côtoyer, que ce soit en enregistrement avec Bill Doerr, tu l'as déjà un petit peu évoqué avant, parce que vous êtes également parti en Louisiane, je crois, avec Bill.
Ouais, sauf que moi j'y suis pas allé. Mais,
ah, d'accord. Ta partie, c'était
les
musiciens
de, ouais, les musiciens de, comment ils s'appelaient, les mecs de Louisiane.
Neville Brothers.
Non, lui les a rencontrés, moi pas. En revanche,
il y a Steve Cropper, non?
J'ai rencontré Steve Cropper après coup, parce que pour avoir le droit d'enregistrer The Duck of the Bay, dont il avait écrit la musique, hein, le fameux tube de Otis Redding, il a fallu lui demander l'autorisation. Alors, il y a eu un grand travail de recherche, parce que personne ne savait où il était à cette époque-là. Que je te dise pas de bêtises, ça devait être en 88, je pense. Et le gars, quand on l'avait déjà enregistré, et donc pour avoir le droit, il a fallu lui faire écouter, lui décrire le contenu des paroles, et il a adoré, quoi. Puis il a dit, le guitariste, dis donc, il en joue, quoi. Il a pas hésité une seule seconde. Et du coup, Florentine, la femme de Bill, qui elle était présente, a dit, tu sais, c'est un Italien, et d'ailleurs, il est né en Italie, d'ailleurs, Luther Allison, ne sachant jamais dire Mauro, le disait, Italian Guitar Hero. Ah, c'est tout. Donc, il m'a mis dans cette petite boîte, quoi.
D'accord. Et la rencontre s'était déroulée aux USA. Vous étiez parti à Memphis, non?
Ça, c'était en Californie, en fait.
C'est en Californie.
Oui, il était sur la côte ouest. D'accord. Une idée reçue. Ouais. Moi, je suis déjà allé à Nashville, mais pour rencontrer
des
gens
photos,
avec qui j'avais déjà joué avec Eddie Mitchell.
D'accord, c'est ça.
Les musiciens de Barefoot Jerry, le groupe de Charlie McCoy. Et surtout, en fait, j'avais été reçu par le pedal steel Russ Hicks. Alors, c'est la meilleure de Russ Hicks. Il me présente, c'était au mois d'août, il m'amène, je vais t'amener au syndicat des musiciens, et il me présente avec des titres ronflants, genre c'est le meilleur, machin, il est de Paris, France et tout. Et mec, putain de gueule, tu vois, il te regarde comme ça, c'est le syndicat des musiciens. Merde, encore un concurrent. C'était une farce, c'était un grand sournois, puis au bout de 30 secondes de tronche, il fait, mais il est en vacances. Et puis après, les mecs se sont déridés. Ah, super, comment tu vas? Et tout. C'est bien. Hein.
Et finalement, c'est vrai que tu es reconnu comme étant un immense session man. Et du coup, ouais. T'as jamais vraiment mené une propre une carrière solo. Ça, alors, c'est pas quelque chose qui.
Bah là, j'ai une réponse. Si tu veux, quand le mec il veut être devant, il est devant. Tu vois. Moi, je pense que secrètement, j'ai jamais eu envie d'être devant au départ. Et peut-être même que je suis un dégonflé. Parce que je me dis, les ricains, quand j'avais 20 balais, ton âge, moi je jouais bien déjà, hein, sans me vanter. Hein. Et les mecs, ils disaient, oh putain, mais tu joues vachement bien, tu pourrais faire carrière chez nous, qu'ils me disaient. Mm-hmm. C'était l'époque, tous les petits ricains, ils faisaient la route en Europe et tout, c'était en 70, hein, quand j'avais 20 ans, moi. Mm-hmm. Et donc, j'ai pas obtempéré, quoi. J'ai pas fait, je dis, oh, moi je m'amuse, je suis bien, je suis reconnu par mes potes dans le coin, j'ai des petits groupes, c'est super. Il y en a qui me conduisent, les nanas même, qu'est-ce que tu veux de plus? C'était une espèce de starisme, mais dans un petit bled, quoi. Et donc, du coup, j'ai jamais été le mec devant, quoi. J'ai toujours partagé. Mais en revanche, quand tu sais te mettre au service, parce que ça, c'est un autre métier, le fait d'être sideman, de savoir entourer l'autre avec tout ton savoir-faire, tout ton amour, sans le bouffer. Hein. Et c'est ce qui se passe bien avec De Rem, c'est que c'est un mariage réussi, quoi, quelque part. Quoi. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. Je veux dire, on s'apporte, quoi, mutuellement.
Mmh. Est-ce qu'il y aurait une personnalité de la musique avec laquelle tu n'as jamais bossé? Ou alors, avec qui tu aimerais vraiment travailler? Ou alors une rencontre qui s'est ratée de peu?
J'ai failli, mais celle-là, on rentre dans des choses qui sont un petit peu plus, comment dirais-je... attirantes par le fait qu'elles sont plus riches musicalement. J'ai rencontré Robin Ford, j'ai rencontré Larry Carlton, donc, qui sont des musiciens réputés. Larry Carlton, c'est un session man incroyable qui a joué dans des tas de choses. Tu sais même pas que c'est lui, mais c'est lui. Et il faisait dans plein de... comment des trucs télé, là, des téléfilms, il y avait toujours de la musique intéressante, c'était lui. Il a joué avec les Crusaders, il a joué avec B.B. King, B.B. King Live in Africa, il ne sait même pas que c'est Larry Carlton qui est derrière lui. Donc tu vois, t'as qu'à voir. Et donc ce mec-là, j'en ai fait la promo dès les années 70 en France, parce que je l'adorais, et je l'ai rencontré une fois ou deux, mais on n'a jamais réussi à jouer ensemble. Ouais. J'ai rencontré à Patrimonio, par exemple, j'y ai parlé, tout ça... Et je l'ai rencontré dans d'autres, avec Steve Lukather, dans le Var, là, à Saint-Laurent-du-Var, dans les coulisses. On a parlé. Steve Lukather aimait bien ma fille, mais elle devait avoir 12 ans, tu vois. Et elle était charmante. Hein. Et donc, des gens comme ça. J'ai failli, en fait, enregistrer avec Robin Ford and the Blue Line. En 89, et puis bon, il y a eu une histoire de thunes. Les gens qui voulaient faire le disque n'avaient pas d'argent, donc ils voulaient faire un truc avec échange de services. C'est pas possible avec les ricains. Et donc, comme il n'y avait pas l'argent, ça s'est pas fait. Ça, c'est la big frustration. Ouais. Ouais, sinon, c'est tout, quoi. Et si tu veux, ce qui me plairait, j'ai aussi un grand regret, c'est que Eric Clapton étant mon grand guitariste de chevet au départ. Bon, après, évidemment, je suis allé vers des trucs plus compliqués. Mais bon, Eric Clapton, je l'ai eu à 2 mètres de moi et j'avais le badge backstage et tout. Et son manager, il fait, non, tu peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu veux? Alors qu'il paraît qu'il m'aurait pas bouffé, mais faut pas le déranger. Tu vois. Alors ça, c'est une grosse frustration. Qui j'ai eu comme ça encore sinon, évidemment, ma plus grande frustration, c'est je n'ai pas vu Jimmy live en chair et en os. Pourquoi? Parce que j'habitais Meaux-Seine-et-Marne, ça se passait à Paris, et j'avais pas de thune, car je suis un fils d'immigré rital, tu vois. Et aller à Paris, il fallait avoir de l'argent, et je n'ai pas pu. Et j'en veux énormément à mes potes de l'époque qui avaient des thunes, les petits bourges. Hein, qui m'ont pas dit, écoute, on te le paye, tu nous le rembourseras plus tard. Tu te rends compte, cette frustration? Alors ça, si j'ai un rêve, je veux jouer avec Jimi Hendrix.
Tu sais déjà jouer très bien du Jimi Hendrix, c'est
ouais,
une partie du chemin qui est faite.
Si tu savais à quel point je l'aime et à quel point il est... en fait, il est méconnu parce que c'est incroyable. C'est incroyable les secrets qu'il y a dans le jeu de Jimi Hendrix. Enfin, j'en dirai pas plus, parce que personne ne le croit jamais. C'est absolument phénoménal ce que ce mec-là a fait en 4 ans. Phénoménal. Voilà. Et dis donc, pour répondre très vite à l'histoire de pourquoi je ne suis pas frontman, maintenant je le suis. Tu vois, j'ai même écrit des chansons blues, mais elles ne sont pas enregistrées encore parce que c'est, tu as plein de projets, tu essayes de les mener et tout d'un coup, tu as besoin d'argent, donc il faut que tu travailles. Comme je suis un mercenaire de luxe, donc je travaille. Voilà. Et là, en revanche, correspondant à une demande de fans de mon entourage, je vais faire un disque d'instrumentaux. Ça, c'est sûr, ça aura lieu avant la fin de l'année. Je pense que ça va commencer à la fin du mois.
Bonne nouvelle.
Voilà, oui. Y aura d'ailleurs un gros coup de main de Sister Blues. Elle se reconnaîtra. Hein, parce que, qui va d'ailleurs certainement après le distribuer, car elle fait un autoprodmusique.com. Qui ne va pas être piqué des verres.
Ben ça, promis, on aura aussi l'occasion d'en reparler dans l'émission. Rapidement,
yes.
Toi qui a balayé comme ça le blues en France depuis tant d'années, comment tu le jauges, pas forcément qualitativement, mais en termes de notoriété?
Alors ça, le grand problème, c'est que le blues en France, on dirait que c'est Johnny. Que j'aime particulièrement, si tu veux, j'aime bien Johnny, j'aime bien le mec intime, parce que je lui ai déjà parlé, à l'époque, en 80, où il voulait absolument que Bill lui écrive des paroles, enfin pas des paroles, des chansons, et que Bill, si tu veux, est un gars qui ne sait écrire que pour lui-même, quoi. Donc à la limite, si tu veux bien reprendre ses chansons, c'est super. Mais sinon, il ne peut pas écrire pour toi. Et donc, on a l'impression que c'est lui le bluesman, quoi. Alors, il y en a bien d'autres, hein. Bon, alors, par exemple, je sais pas, à part Bill Durham, il y a toute cette nouvelle génération. Je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des gars qui font vraiment des trucs vraiment bien. Et souvent, en province, je rencontre des bons.
Parce que paradoxalement, c'est vrai qu'on n'a peut-être jamais eu autant de musiciens de blues en France. Mais on a de moins en moins de lieux pour pouvoir les laisser s'exprimer, quoi.
Ah oui, ça périclite à tout va, là, les lieux pour jouer. Et oui, puis aussi dans le temps, en fait, pour avancer, je faisais aussi, j'animais des jam sessions. On a beaucoup fait ça. Et là, ça fait des années, en fait, ça doit faire 3-4 ans, qu'on n'a pas de lieu magique pour animer une jam session. Et c'est très formateur aussi, parce que bon, j'enseigne dans une école... pub, l'école Atlas à Pigalle, et on drainait aussi les élèves des écoles, ils viennent, ça leur fait sortie travaux pratiques, quoi.
Alors, malheureusement, je suis obligé couper court à l'entretien parce qu'on touche déjà quasiment à la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même encore profiter de votre présence afin que nous puissions entendre un nouveau titre en live, et je crois que là c'est un grand classique de Robert Johnson que
tout
tu
à fait, et quand Robert Johnson, il faut lui ouvrir.
Crossroads, fell down on my knees. I went down to the crossroads, fell down on my knees. Ask Lord above for mercy, take me if you please. I went down to the crossroads, trying to flag it right. Going out to the crossroad, trying to flag it right. Nobody seemed to know me, everybody passed me by. Thank you.
my friend Bo Willie Brown. No, you can roll. You're my friend Bo Willie Brown. Well, I'm standing at the crossroads. Well, I believe I'm singing the. Believe I'm thinking the.
C'était à qui aura le dernier mot. Ah bah. Belle rencontre. Allez, l'émission touche à sa fin, mais auparavant, j'aimerais quand même vous laisser un dernier mot. Une petite chose à dire, à ajouter.
Vas-y, bah, parce que moi j'ai le souffle coupé après, après ta dernière note.
Bah déjà, merci. Merci de nous avoir invités dans l'émission. C'est un plaisir. Et je tiens aussi à passer en même temps un petit merci au. Encore une fois, au CAF France d'Ensisheim, je crois que ça se prononce.
Fais gaffe à cette rencontre.
Ensisheim, oui.
Ensisheim, ils ont dit.
Ça fait plusieurs fois que je me fais reprendre. Et donc, voilà, un petit bonjour et encore un merci à Yannick et à toute l'organisation. Mmh. Et n'hésitez pas à venir ce soir.
Ouais. Donc, ceux qui nous écoutent, hein, le 3 septembre, 21h, le CAF France d'Ensisheim. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, ça vaut vraiment la peine. Mauro, le souffle est revenu.
Le souffle est revenu. pourrais-tu prononcer Mauro, s'il te plaît?
Non, j'ai dit Mauro. Ah, excuse-moi, sinon, Mauro. Je te mets deux Mauro. Calons, hein. Mauro.
David.
Ah, ça me va.
David.
Ah, non, finalement, t'as raison.
David, t'arrêtes un peu de déconner. Non, merci les gars, merci. Il y a un mec qui est très, 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 très grand par le talent joli. Derrière la vitre. Qui joue le poisson rouge, mais en fait, il nous filme. Alors, ça pour le bonheur ou le malheur des gens qui vont le regarder plus tard, hein, parce que je suis pas sûr qu'on soit si photogénique. Bref, je ne sais pas son prénom, mais il est
Jean-Luc.
Charmant. Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Et merci David donc de nous avoir reçus. Et j'espère que nous aurons l'occasion de repasser très vite par ici. Parce que jusque-là, ça faisait longtemps que j'étais pas venu en Alsace. Hein.
C'est la dernière fois que c'était avec Bill
Me semble-t-il, oui. Mmh. Et puis avant, je faisais beaucoup le stage des académies Marcel Dali. Et mmh. Ouais, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, c'est marrant parce que j'ai aussi un gars, un pote de Mulhouse qui s'appelle Eric Camilleri, qui est chanteur de son état, qui gratte un peu d'ailleurs, et qui, dans le temps, on faisait une jam ensemble, quoi, et qui est de Mulhouse, mais il habite Paris.
D'accord. Je vous rappelle également les sites internet de nos invités. En ce qui concerne Charlie, c'est www.charliefaber.com. Il a également une page MySpace, myspace.com/charliefaber, avec un T à la fin. En ce qui concerne Mauro, www.mauroserie.com. Le MySpace, c'est le même système, www.myspace.com/mauroserie. Quant à nous, c'est sur la route 66.free.fr. On se retrouve la semaine prochaine avec une interview de monsieur Bob Corritor, un harmoniciste de blues américain. Et dans 15 jours, je diffuserai l'interview de quelqu'un que tu connais très bien, l'harmoniciste Greg Slapp.
Yeah. Voilà. Ah, tu salues. De ma part, évidemment, frère de l'Est, je t'aime.
On se quitte avec un morceau de Mauro enregistré en live. L'album est réédité, date de 2002 à l'origine, mais il est enfin réédité. Ça s'appelle Live au Cristal. Je le montre à la caméra. Et on va se passer le titre que tu avais coécrit avec Bill de Rem. Ça s'appelle La Collectionneuse. Merci encore à vous deux d'être venus.
Serviteur.
Et on se retrouve très très bientôt.
Merci.
Salut.
Chercher l'âme sœur, tu as mordu à l'hameçon, toi qu'on dit. chercher l'âme sœur. Tu te cognes au mur d'une prison, prison glacée pour un rêveur. Son plaisir, c'est la possession. Cette âme-là t'a volé ton cœur pour enrichir sa collection.
D'aucuns l'auront compris, c'est aussi un hommage à Peter Green. Et comme ça, on va vous jouer de la guitare hawaïenne. Jouer avec...